9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Et cette question que je vous soumets jusqu'à 10h, à quoi servent les colonies de vacances? On fait appel avec Julie à vos souvenirs plus ou moins lointains. Qu'avez-vous gardé de ces séjours? Vous ont-ils construit d'une certaine manière? Un enfant sur 4 part en colonie encore aujourd'hui, près d'un million par an. Mais on est loin des 4 millions d'aficionados dans les années 60 et le gouvernement veut repopulariser ces séjours pour favoriser d'une certaine manière le vivre ensemble et la découverte. La réalité étant la suivante, 3 millions d'enfants en France ne partent jamais en vacances. Comment faire? Eh bien, on en débat sur Europe 1 et vous réagissez dès maintenant, Julie.
Au 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, une autre question. Prenons-nous assez soin de notre cœur? Le stress est responsable de 33% des arrêts cardiaques. Cocktails explosifs, on en parlera, du tabac et de la pilule. L'hypertension, le cholestérol accroissent aujourd'hui le risque de maladies cardiovasculaires, seconde cause de mortalité en France. Si nous en parlons aujourd'hui, 16 mai, Julie, c'est que c'est le jour du Red Day, une journée rouge en particulier pour sensibiliser les femmes à ces maladies. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. Vous êtes parée de rouge pour l'occasion. Et là encore, on vous donne la parole. Voici le sommaire jusqu'à 11h sur Europe 1. Nous en parlons avec Anne Carayon, des colonies de vacances, directrice générale de la Confédération La Jeunesse en plein air. Bonjour.
Bonjour.
Avec Jean-Marie Bataille, spécialiste des colonies de vacances, enseignant et auteur. Justement, cela tombe bien, ça rejoint notre question de cet ouvrage. À quoi servent les colonies de vacances? Vous plaidez pour des séjours citoyens, écologiques et solidaires. Vous souhaiteriez, Anne Carayon, pour des raisons qu'on va développer dans cette émission, que ce modèle fasse des petits. Est-ce qu'on peut vraiment revenir d'abord aux 4 millions d'enfants qui partaient avec ces formules en chantant quasiment dans les années 60?
Alors, ça ne sera pas exactement les mêmes formules parce que les colos, elles ont évolué. Mmh. On connaît tous les colos. Les colos ont une bonne notoriété, mais souvent, on est sur la colo justement des années 60. Donc oui, on peut repartir sur des départs en nombre pour les enfants dans des colonies de vacances parce que ça s'appelle toujours colonies de vacances, mais ce n'est plus exactement la même chose qu'on y vit.
Les colonies de vacances dans les années 60, c'était quoi finalement, Jean-Marie Bataille? C'était de la mixité sociale à tout craint?
C'était pour partie de la mixité sociale pour des raisons d'après-guerre.
Oui.
Les enfants avaient besoin d'être nourris, puisqu'il y avait eu des restrictions alimentaires pendant la guerre. Donc ça a été un moment qui a permis effectivement de faire du mélange entre les classes populaires, les classes moyennes essentiellement, et un peu les classes sup, mais pas plus que ça. On peut dire ça, oui, effectivement.
Qui favorisait ces colonies de vacances à l'époque? C'était vraiment porté par les institutions, les pouvoirs publics?
Ah, carrément. C'était un enjeu de société de faire partir les enfants pour ces raisons de santé. Donc l'État subventionnait énormément les départs, en particulier en construisant des colonies de vacances, les bâtiments, ce qui revenait à des coûts quand même assez élevés. Les villes subventionnaient et aussi les comités d'entreprise. Et l'ensemble était vraiment l'élément qui a favorisé un départ de masse, c'est clair.
Ce qui est moins le cas aujourd'hui, Anne Carayon, on a moins de subventions, vous avez moins d'aide, moins de leviers justement pour démultiplier le nombre de candidats au départ?
Alors oui, ces leviers ont bougé, ont changé et aujourd'hui une colonie de vacances du coup revient à peu près à 500 euros la semaine pour une famille, donc pour un enfant.
Ce qui peut donner, hein. Si vous envoyez vos deux enfants, ça fait...
Ce qui est un véritable choix de la famille et donc toutes les familles n'ont pas cette possibilité.
Vous nous avez réservé ce matin le résultat d'une enquête IFOP pour votre confédération, la jeunesse en plein air, avec quelques chiffres qu'on va distiller au gré de cette émission. Un enfant sur quatre est déjà parti en colonie de vacances en France et 93% d'entre eux disent avoir aimé ce type de séjour. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que ces formules-là sont plébiscitées. Une fois que l'enfant y entre, quand il en revient, il est ravi.
Exactement. Alors, on a interrogé les enfants de 7-12 ans et c'est 400 enfants qui nous ont répondu. On se rend compte que les 25% qui sont partis ont même envie d'y repartir pour certains d'entre eux. Certains sont partis deux fois, même en séjour. Par contre, ce qui attire notre attention aussi, c'est ceux qui ne sont pas partis et qui sont ces enfants qui ne sont pas partis. Là aussi, les enfants issus de milieux ruraux vont moins partir en colonie de vacances puisque 80% d'entre eux n'y ont pas eu accès, ainsi que les catégories populaires n'ont pas accès non plus, moins accès aux colonies de vacances, puisque là aussi 80% des enfants ne sont pas partis.
Alors ça c'est nouveau, c'était l'inverse ou pas justement dans les années 60, Jean-Marie Bataille? Est-ce que les catégories les plus populaires et défavorisées avaient davantage accès aux colonies de vacances?
Il y avait une attention au départ des catégories populaires, mais cela depuis très longtemps, puisqu'en fait, on s'occupait des enfants qui étaient en situation, enfin comment dire, touchés en particulier par la tuberculose. Si on se rappelle de vraiment le tout début des colonies de vacances à la fin du 19e siècle, et ça touchait principalement les enfants des classes populaires.
Oui.
Donc oui, on avait ça comme élément, le départ des classes populaires. Et aujourd'hui, le fait que les colonies de vacances sont devenues plus centrées sur l'activité, une sorte d'activisme, de tourisme, on va dire, les collectivités territoriales se sentent moins obligées d'aller les financer.
Oui.
C'est, bon, si on ne va pas financer juste un départ en activité. Oui. Il faut retrouver en fait une cause derrière le départ.
Oui.
C'est ça l'essentiel.
Alors qu'on est dans des formules, dans des séjours très spécialisés ou très sportifs, cheval, tennis, etc. On va revenir sur ces spécialités qui ont peut-être aussi un petit peu tué la philosophie même, pour vous, Jean-Marie Bataille, d'une certaine manière, des colonies de vacances. La réalité est la suivante, Anne Carayon. Un enfant sur trois ne partira pas en vacances. 3 millions d'enfants n'ont pas de vacances chaque année. Et vous, vous considérez justement que le levier de la colonie de vacances, de ces séjours en plein air, peuvent favoriser cette intégration et ces départs pour ces enfants qui restent toujours sur le côté.
Alors, il existe, oui, il existe une multitude de séjours. Il existe des séjours qui sont courts, des séjours un peu plus longs, des séjours lointains, des séjours de proximité, avec des activités diverses et variées, thématiques plus ou moins, voilà, ou pas, l'apprentissage de la cuisine, la colo classique sur le départ colo, le poney, enfin, donc il existe une multitude de choix d'activités. Et oui, on considère que partir en colonie de vacances, c'est prendre du plaisir pour les enfants, c'est d'abord partir en vacances, c'est s'amuser, et mais c'est aussi apprendre énormément de choses. Donc, pour nous, le départ en colonie de vacances est un des leviers pour permettre ce départ en vacances. Il est complémentaire au départ à la famille. On ne peut pas opposer, quand vous disiez, voilà, 3 millions d'enfants, la colonie, un levier pour faire partir tous les enfants. On ne fera pas partir demain 3 millions d'enfants d'un coup en colonie de vacances. Mmh. Ce n'est pas non plus notre choix. Notre choix, c'est que toute une classe d'âge puisse avoir un jour accès à ce départ et découvrir le départ en colonie de vacances, complémentaire du départ en famille ou dans la famille.
Mais vous multipliez par exemple les initiatives avec votre confédération La Jeunesse en plein air, avec l'aide de partenaires, notamment l'Agence nationale des chèques vacances, parce que vous arrivez à faire partir 20 000 enfants en colonie de vacances, en centre de loisirs, en classe de découverte. Ces 20 000 enfants qui habituellement, justement, ne partent pas. Donc vous arrivez chaque année à donner envie à ces enfants-là et à ces familles de pousser les portes des colonies.
Alors on donne envie à ces enfants et ces familles par des aides financières, mais aussi parce que l'on passe par des partenariats, donc partenariats financiers ou partenariats dans la mise en place des aides, notamment avec l'éducation nationale, que ce soit donc les classes de découverte ou des départs en colonies de vacances où on a des aides, des opérations type partir en colo avec école ouverte, où on s'adresse aux collèges. Et là, ce sont des collégiens qui habituellement ne partent pas en vacances qui vont partir en colonies de vacances.
Pour voir partir en vacances est un enjeu d'inclusion sociale, favorise la croissance économique. C'est une demande forte aussi qui s'est exprimée lors de la crise sociale et lors du grand débat national. C'est pour ça qu'on vous en parle aussi avec un plan du gouvernement qu'on va vous dévoiler dans quelques instants. Tous en colo, c'est ce que souhaite aujourd'hui le ministre de la Jeunesse et son secrétaire d'État pour favoriser les colonies de vacances. Nous sommes avec Anne Carayon, directrice générale de la Confédération La Jeunesse en plein air, et avec un spécialiste des colonies de vacances. On parlera davantage de leur histoire, de leur sens aussi et de leur intérêt avec vous, Jean-Marie Bataille. À tout de suite avec Julie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Alors que l'on note une réelle désaffection pour les colonies de vacances, le gouvernement s'empare du sujet et veut booster les départs en colo. Wendy Bouchard.
900 000 enfants sont partis l'an passé en colonies de vacances, en classe de découverte, en centre de loisirs. Et en effet, le gouvernement veut atteindre déjà le chiffre un peu symbolique du million d'enfants. Anne Carayon, vous qui vous occupez comme directrice générale de la Confédération La Jeunesse en plein air, qui porte bien son nom, quels sont les séjours qui sont les plus prisés des enfants en ce moment ? C'est la campagne, c'est la mer, c'est la montagne. Résultat de votre étude ?
Alors, pas les résultats d'études, mais les résultats de la parole des enfants, puisqu'on on s'est adressé aux élèves des classes pour leur demander leur colo idéal. Mm-hmm. Et on se rend compte qu'ils finalement, ils partent assez près de chez eux, à la mer ou à la montagne, voire même à la campagne. Ce qui importe dans le projet de la colo idéale qu'ils nous ont présenté, c'est finalement construire ce projet avec les copains, y réfléchir ensemble, et puis finalement des activités très nature. Leur rêve, c'est d'aller voir les étoiles, la nuit étoilée, c'est d'avoir une cabane dans les arbres pour dormir. Voilà, donc découvrir la région fait partie de leurs souhaits, mais il n'y a pas eu plus de plaisir pour la mer ou la montagne.
D'accord,
voilà. C'était assez équilibré.
Alors voilà, ouais, ça c'est les rêves de gosses, je vais dire, Jean-Marie Bataille. Puis après, il y a la réalité aussi et des professionnels du tourisme que vous avez rencontrés pour votre ouvrage « À quoi servent les colonies de vacances ?» où on apprend de la bouche de certains que la mixité sociale, je vous cite, c'est du pipeau. La majorité des parents des classes aisées ne veulent pas que leurs enfants se mélangent avec des adolescents des quartiers populaires. C'est un reflet d'ailleurs de la société. C'est ce que vous avez constaté aujourd'hui dans les colonies de vacances version contemporaine, je veux dire ?
Si on prend les résultats de l'étude, hein, on voit qu'il y a une augmentation des séjours à l'étranger, des séjours langues, des séjours sportifs. Ça vise une population qui vient chercher effectivement une pratique culturelle qui va servir éventuellement pour le curriculum de l'enfant.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est plutôt des parents qui ont une réflexion sur comment rendre utiles leurs vacances. Et c'est plutôt les classes aisées qui ont cette approche.
Oui.
Et effectivement, il y a eu un glissement qui s'est fait progressivement vers ces pratiques-là. Et on est arrivé tout doucement vers une logique un peu de tourisme où finalement, quelques organismes privés ont commencé à apparaître dans le champ. Alors qu'à l'origine, on n'était pas du tout le privé n'était pas très présent dans l'activité des colonies de vacances.
Le tourisme, la mise aux normes d'un certain nombre d'établissements qui a fait beaucoup de mal aussi aux colonies de vacances. C'est vrai que c'était fait un petit peu, parfois avec du système D, Anne Carayon. Il y a une normativité qui a obligé certains établissements à fermer, puis d'autres peut-être à devenir un peu moins hétérogènes dans leur hétéroclite. Je ne sais pas comment on peut dire, Anne Carayon.
Alors, nous, ce qu'on constate auprès de nos organisations qui sont membres de la JPA, où on va avoir la Ligue de l'enseignement, les PEP, l'UCPA, Léo Lagrange, la FOEVEN, enfin les éclaireuses et éclaireurs de France, c'est que ces organisations sont très sensibles à accueillir tous les publics et sont vigilants à pouvoir accueillir des publics aisés et des publics qui ne pourraient pas partir,
enfin,
puisque nous aidons les enfants.
D'accord, mais la semaine, c'est 550 euros que vous ayez de l'argent, vous n'en ayez pas jusqu'à présent.
Oui.
Outre un certain nombre d'aides que vous pouvez mettre à disposition.
Voilà, des aides, et avec des aides et des efforts aussi de ces organisateurs, il peut y avoir cette mixité sociale. Les colonies de vacances, c'est avant tout, même une colonie qui n'est pas un séjour linguistique ou autre, c'est aussi un lieu d'apprentissage, parce que tout simplement l'interaction, le fait d'être en collectif va permettre à l'enfant et à chaque enfant de s'accomplir individuellement. Je crois que ça c'est important que les parents le sachent aussi, c'est que finalement même en allant s'amuser, l'enfant va apprendre beaucoup de choses.
Parents, grands-parents, on fait appel à vos souvenirs ce matin, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous encouragez vos enfants, vos petits-enfants à partir. Françoise est avec nous au 39-21, bonjour Françoise.
Bonjour Wendy, oh quel plaisir et quelle surprise.
Oh mais c'est moi qui suis ravie d'accueillir votre parole, de La Rochelle je crois Françoise.
Oui, et puis Wendy au passage vite fait, parce que je sais que vous êtes tenue par le temps, c'est formidable, une émission très intelligente, vous êtes arrivée comme le bon Dieu, on va dire presque. C'est formidable de vous entendre tous les jours, car tous les sujets sont tous aussi intéressants dans l'époque que l'on vit en ce moment.
Eh ben, vous êtes voilà. Un amour, ça nous touche et Julie rougit. Merci
mais
beaucoup.
Non, mais non.
Alors vous, en l'occurrence, pour les colonies de vacances, vous avez des souvenirs à partager, Françoise.
Ah, extraordinaire. Oui. Je veux dire, c'était avec la caisse d'allocation familiale à l'époque. Les parents avaient une aide un petit peu, on va dire. Mais bon, on était quatre enfants. Les enfants partaient dans les Alpes. Nous, on partait avec ma sœur dans les Pyrénées, dont je garde toujours le souvenir et parfois un contact parmi les autres. Et je vais vous dire, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il faut ça absolument. On a l'éducation, on a tout, la nourriture, si vous mangez pas ce que vous avez, vous redescendrez pour manger, tant pis pour vous. C'est le dimanche matin, la levée des couleurs, avant d'aller à la messe pour ceux qui y vont. C'est pas catholique spécialement, c'est pour tout le monde. Ceux qui n'y vont pas, c'est tout. Et il n'y a pas de discrimination là-dedans. Les repas sont contrôlés. Les monitrices étaient extraordinaires aussi, puisque tout le monde pleurait quand on partait. Vous voyez, il y en a qui pleuraient en partant de La Rochelle, d'autres qui pleuraient en partant des Pyrénées.
Voilà. Parfois les deux même.
Et parfois les deux. Vous savez, je pense que c'est plus que nécessaire aujourd'hui. Moi, quand je vois les enfants en plein été comme ça, qui s'ennuient, qui ont tout dans les mains, tout ce qui sort aujourd'hui, le portable, etc., j'ai rien contre, je suis pour l'avancement, c'est certain. Mais il faut bien reconnaître que ça, c'est même pas de l'intellectuel, c'est pour les occuper. Mais si ces gamins savaient qu'il y a une piscine thermale là-bas, dans les Pyrénées, pour pas le citer, Bagnères de Bigorre, Pouzac qui est à côté, c'est très, très, très bien. Je ne sais pas si ça existe encore, mais disons que moi, j'y suis allée, on y est allé pendant 8 ans. Ça a été 8 années consécutives avec le même sourire au retour. Et les larmes, bien évidemment.
Chère Françoise,
mais on pleurait pas.
Avez-vous des enfants et des petits-enfants ?
Oh là là, quelle question !
C'est une question qui fâche ou qui vous fait sourire, au contraire ?
Ben, ça va vous surprendre, surtout.
Oui.
C'est que je suis grand-mère de 3 petits-enfants, de 28, 23 et 20.
Oui.
Je suis arrière-grand-mère de 3 arrière-petites-filles de 7 ans, de 5 ans, de 4 ans et la quatrième qui arrive.
Et ces bouts de choux, est-ce que vous les avez encouragés à partir aussi par l'intermédiaire de leurs parents en colonie de vacances ?
Mais ils sont un peu petites, un peu petites les dernières quand même, mais bien sûr, vous savez, moi j'ai 72 ans, 73 bientôt, et je peux vous dire que j'encourage tous les gens que je connais quand les parents ont des soucis avec, parce qu'en plus j'étais dans un lycée, donc non pas enseignante, mais attendons, je vais vous dire, on a le contact avec les enfants. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir dans la vie, vous êtes fait pour le contact avec les enfants, c'est inné, ou alors c'est juste pour passer le temps ou trouver un emploi. C'est dans la personne. Moi, j'adore les enfants, petits et grands. Un exemple qui va vous faire chaud peut-être, c'est hier, c'est pas vieux. C'est pour donner un exemple à plusieurs personnes en même temps. Tout simplement, se promenant dans La Rochelle, deux gamines de 15 ans, on va dire, mignonnes comme tout, dans une ruelle de La Rochelle. Il y en a une qui a son petit portable et qui prend sa copine en photo. Elle n'y arrive pas parce que c'est sombre. J'arrive, je dis... On a envie d'être en photo, on a envie de prendre des photos. Elle m'a donné, je lui dis, donne-moi l'appareil. J'ai pris l'appareil, j'ai pris les deux filles. J'ai cru qu'elles allaient craquer devant moi. Je leur ai dit, ben moi, j'étais à tel lycée. Ben c'est là que nous sommes. Elles étaient épanouies. Mais qu'est-ce que c'est gentil. Je vais vous dire, c'est pas pour frimer. Je suis une grand-mère, une arrière-grand-mère, mais je suis moderne.
Oui, ben je sens que vous êtes moderne. Et j'ai l'impression que voilà, que aussi ces valeurs-là de bienveillance, de fraternité, vous les mettez en rapport avec le sujet du jour, ce qui est agréable en vous entendant, Françoise.
Ah, oui.
Émancipation, mobilité, Jean-Marie Bataille va vous répondre parce qu'il connaît très bien les colonies de vacances. Je mets en avant aussi d'ailleurs ce que le souhait du gouvernement et du secrétaire d'État Gabriel Attal qui dit finalement pour construire la jeunesse, on va s'appuyer sur deux piliers, le service national universel d'un côté et les colonies de vacances de l'autre. Parce qu'on a ces valeurs qui se rejoignent, Jean-Marie Bataille.
Je voulais juste rebondir. Tout à l'heure, on a évoqué aussi la question de savoir où se faisaient les départs, ville, campagne, etc. En fait, dans le temps, c'est ce qu'on faisait. C'est qu'on ne s'occupait pas des activités qu'il allait y avoir dans le séjour. On disait, on part soit à la campagne, soit à la montagne.
Ouais.
Et après, on verra sur place.
Ouais.
Parce que c'était le sur place qui comptait. En fait, c'est la qualité de la vie, de la relation. Ouais.
Comme le traduisait
exactement,
Françoise.
On l'entend bien ici.
Oui.
Je pense que les colonies de vacances sont... De ce point de vue-là, un lieu très intéressant de rencontre entre les enfants.
Mmh.
Et en sorte, on devrait travailler la question de la mixité dans les séjours, faire en sorte qu'il y ait plus de d'enfants différents qui participent.
Ouais.
Moi, je vais vous dire, on n'était que des filles, il n'y avait pas de garçons. Mais j'ai rien contre les garçons, du tout. Mais je dirais quelque chose, le comportement n'est pas le même.
Oui, alors bon, c'était dans les années quoi, 60, 70, Françoise ?
Wendy, je vais avoir 73 au mois de juillet.
Oui, mais moi, je suis nulle.
Donc j'en avais.
Oui.
Moi aussi.
Bon. Mais en tout cas, c'est la fraternité quand même, voilà, mixité, fille, garçon ou pas, que
oui,
l'on retrouve.
C'est un terme, mixité, pour expliquer ça. Mais
exactement.
C'est ça dont
vous savez.
Mais Françoise, j'aurais juste laissé parler Anne Carillon, parce qu'on doit faire une petite pause, pardonnez-moi.
Oui.
Françoise qui dit que ça devrait être quasiment obligatoire comme le service.
Comme le service militaire.
Voilà, militaire.
Je vois ça d'un bon œil, moi, voyez.
Je vous remercie, Françoise, pour ce témoignage, parce que dans tout ce que vous dites, moi, ça m'évoque plein de choses. D'abord, de ce que vous vous rappelez en souvenir, il y a des choses qui existent toujours, et très certainement, peut-être, nous, on a conduit une étude d'impact l'an dernier auprès de jeunes adultes qui sont partis en colonie de vacances ou en centre de loisirs, et on se rend compte que leur expérience a eu un impact dans leur engagement aujourd'hui de l'adulte qu'ils sont. Et donc, quand vous dites aujourd'hui, je m'engage auprès de jeunes, eh bien oui, beaucoup de Français qui sont partis en colonie de vacances, finalement, ont plus tendance à s'engager. Ils sont plus facilement enlevés des freins pour la mobilité.
À s'engager et à partir, vous voulez dire aussi à voyager ?
À voyager, à partir, mais même à bouger professionnellement. C'est-à-dire, ils ont levé les freins de la mobilité. Et puis surtout, ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait un champ des possibles, c'est-à-dire certains ont découvert des activités culturelles ou de loisirs qu'ils poursuivent après en tant qu'adultes. Oui. Certains en ont fait leur métier. Donc, on voit que la colonie de vacances peut avoir vraiment un rôle dans la construction et le parcours du futur adulte. Juste un point, il n'y a pas forcément de levée de drapeau en colonie de vacances aujourd'hui. Il peut y avoir des réveils échelonnés. Donc, vos souvenirs, Françoise, sont très très beaux. Mais les colonies aujourd'hui ont changé.
Aussi, bien sûr.
Et donc, voilà, elles sont mixtes, filles, garçons. Voilà, on peut se lever réveil échelonné, c'est-à-dire tout le monde ne se lève pas à la même heure. Voilà, il n'y a pas la levée des couleurs. Les choses ont évolué. Le repas, il peut y avoir des choix aussi de plats, même si c'est équilibré, il peut y avoir des choix de plats. Le téléphone fait partie aujourd'hui de la vie quotidienne et les enfants ne sont pas interdits de téléphone.
Oui.
Par contre, on apprend à le gérer et il y a des moments pour téléphoner et d'autres pas.
Merci beaucoup Françoise pour ces propos et ces souvenirs. Vous qui nous appeliez de La Rochelle, Robert de Courbevoie nous dit « En 1937, mes parents m'y ont inscrit, mais moi je détestais ça. » Nous serons avec Vanda, peut-être, qui est allée en colonie de vacances dans les années 50, souvenirs toujours gravés, et avec Isabelle qui veut réagir au 39-21. À tout de suite pour rendre plus accessible ces colonies de vacances pour qu'un million d'enfants y partent chaque année.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Quel avenir pour les colonies de vacances ? C'est le sujet aujourd'hui jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Avec le plan du gouvernement pour multiplier ces stages de départ. Alors d'ailleurs, quand on parle de colonies de vacances, Anne Carayon, vous qui êtes directrice générale de la Confédération La Jeunesse en plein air, on parle à la fois des classes de découverte, des centres de loisirs, ça rentre aussi dans ces séjours en plein air ?
Non, les colonies de vacances, c'est vraiment partir en séjour donc collectif, quelques jours, mais c'est pas la classe de découverte, c'est sans les enseignants.
D'accord.
Donc avec des copains, mais aussi des enfants que l'on ne connaît pas. Et on part donc plus de 7 jours en colonie de vacances.
D'accord, 900 000 départs l'an passé, avec un enfant sur 4 qui partira donc en colonie de vacances. Le spécialiste des colonies de vacances, Jean-Marie Bataille, que vous êtes, a étudié évidemment le changement, la transformation des colonies de vacances depuis les années 60. Dans les années 80, les modèles très généralistes cessent un petit peu, on commence à spécialiser les voyages. Et vous avez craint, vous, que... en 2018, une directive européenne qui travaillait sur le tourisme met un coup fatal aux colonies de vacances. Car ce sont devenus quand même, pour certains modèles, des séjours touristiques qui sont loin justement de ce qu'évoquait Françoise à l'instant.
Alors, c'est effectivement une inquiétude qu'on a eue, qu'on a partagée avec les autres chercheurs du champ, cette directive travail, l'impact qu'elle aurait pu avoir. C'est effectivement, ça signait de manière définitive le fait qu'on était passé dans le tourisme.
Oui.
Malgré tout, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est qu'il y a une apparition d'un mouvement qu'on voit chez le scoutisme, par exemple, où il y a une augmentation du nombre de départs, alors que le reste des organisateurs voient plutôt des baisses de départs. Le scoutisme, au contraire, voit une augmentation. Donc, il se passe quelque chose.
D'accord.
Et pourquoi ils arrivent à faire plus de départs ? Parce qu'ils ont décidé... collectivement, de faire du scoutisme un scoutisme pour tous. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mobilisé dans l'organisation du scoutisme pour faire en sorte que tous les enfants participent à des séjours. Donc là, on voit que la période peut-être de tourisme est peut-être arrivée à la fin de son existence et on est en train de rentrer dans quelque chose de nouveau, dans lequel il y a une transformation finalement de la raison pour laquelle on part. Et la raison pour laquelle on part, qui semblerait émerger là tout doucement, c'est on y fait des rencontres.
Ah, et là on revient à l'essence même, Anne Carayon, et sur le sondage aussi que vous avez mis en lumière aujourd'hui, sondage IFOP pour la JPA, qui dit que justement c'est l'univers de ces rencontres qui est
Alors,
le plus
attachant. Alors les enfants partent en colo, ce qu'ils nous disent c'est d'abord pour se faire de nouveaux copains, C'est ensuite pour les activités, parce qu'ils choisissent aussi et ils aiment bien aussi des activités. Et puis, c'est aussi parce qu'ils partent avec des copains. Donc, on voit bien que la relation à l'autre est centrale quand même au sein des séjours, même si les activités sont en deuxième place pour le choix des colonies pour les enfants.
On se retrouve dans un instant. Dites-nous si vous êtes parti en colonie, si vous envoyez vos enfants en colonie de vacances. Sont-elles accessibles à tous ? Dans quelques secondes, Julie va vous donner les résultats d'une consultation Facebook avec des témoignages à la clé. Et Isabelle va venir témoigner. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
On parle des colonies de vacances aujourd'hui avec cette question Facebook pour notre consultation quotidienne. Selon vous, les colonies de vacances sont-elles accessibles à tous ? Non, à 73%.
Oui.
Pas accessible, comme nous le dit Delphine, il n'y a pas d'enfants handicapés dans les colonies de vacances. Nous sommes trop différents pour les autres enfants. Je ne garde pas un bon souvenir des colonies de vacances et maintenant j'ai encore moins confiance, nous dit Joannella. Et puis quand même un témoignage positif, il y en a beaucoup. Hein. J'ai adoré ça, sauf au moment de quitter les premiers petits copains. Mon moment préféré, chanter Pierre Perret dans le bus qui me conduisait en colonie. C'est signé Charlotte.
Ah, obligé alors. Hein.
Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Youkaidi, Aïli, Aïna.
Ah, ça c'était l'âge d'or, Jean-Marie Bataille des colonies de vacances, Pierre Perret. Alors il y avait cette petite bafouille, des enfants qui adoraient, ces enfants qui détestaient, hein, Jean-Marie.
Exactement, exactement. Bon, on va dire quand même que c'était l'image du passé. Cette chanson, elle raconte quelque chose effectivement de cet âge d'or. Je crois que la colo d'aujourd'hui est quand même très différente. Je pense à une colo, par exemple, à la maison de Courcelles en Haute-Marne. Il y a là vraiment quelque chose de très grande qualité pédagogique. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à mettre en avant.
On a Marie qui nous écrit de Strasbourg. J'ai des amis choqués par le mot colonie, d'ailleurs, dans colonie de vacances. C'est un mauvais souvenir, ce mot colonie. Il faudrait peut-être supprimer ce mot par séjour de vacances. Est-ce que ça participe d'une image, peut-être, qui est un peu passéiste pour
Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui raconte qu'on est rentré dans une nouvelle période. Le terme colonie, je le disais à un moment que les colonies de vacances allaient finir dans les années 2030, c'était pour dire ça, c'est-à-dire ce modèle-là de la colonie de vacances des années 60, il est en train de finir, il est en train d'arriver au bout de sa course. Il y a quelque chose d'autre à inventer. Peut-être que le terme séjour peut être une façon de renouveler l'histoire.
Mes enfants, ils sont partis, nous dit Nathalie Frankhauser. Jeunes, elles ont adoré. Séjour à la ferme, pas trop cher. 300 euros pour deux enfants, paiement en plusieurs fois. Mais elle ajoute, et pour reprendre un témoignage que vous avez lu, Julie, colonie où les enfants handicapés ne sont pas acceptés. Moi, je suis devenue animatrice pour accompagner mon enfant. Et j'ai adoré ce côté animateur. C'est vrai qu'il y a ces difficultés d'inclusion, justement, des enfants différents. Aujourd'hui, Anne Carayon.
Alors, il y a peut-être déjà une absence de communication de nos organisations. Il faut qu'on entende ce qui est dit là, parce qu'aujourd'hui, l'accueil des enfants en situation de handicap, comme pour le milieu scolaire, fait partie des droits pour les enfants. Donc, il est normal qu'une famille demande à ce que son enfant puisse partir en séjour.
Oui, on peut le demander,
donc,
mais est-ce qu'il y a des séjours
On l'accueille. La JPA, justement, octroie des aides avec son partenaire à la NCV pour permettre de prendre en charge le surcoût qui est lié lorsqu'il y a un surcoût à l'accueil de l'enfant, s'il faut étoffer l'équipe d'animation, s'il faut un animateur supplémentaire. Donc oui, il y a des départs pour les enfants en situation de handicap. Très certainement, nos organisations ne communiquent pas suffisamment pour dire qu'elles peuvent accueillir. Après, bien sûr, tous ces jours se préparent pour se dérouler dans les meilleures conditions de sécurité.
On a des beaux souvenirs à vous faire partager encore. Jean-Seb Desmarais, souvenir d'avoir été animateur de colo pour le Crédit Foncier de France, qui recevait parmi les enfants du comité d'entreprise des enfants du Secours Populaire. Et nous rappelons que 3 millions d'enfants ne partent pas en vacances aujourd'hui. Claudette est avec nous au 39-21. Bonjour Claudette.
Oui, bonjour. Et merci. Contente d'être sur l'antenne, très surprise, car c'est la première fois que j'appelle.
Eh ben merci, décidément.
Voilà, ça fait très plaisir. Surtout, ce sujet me touchait beaucoup, car c'est vrai que ça touche les enfants, donc voilà.
Oui,
donc,
vous nous appelez de Cambrai, vos enfants sont partis en colonie de vacances, justement?
Oui, qui sont très grands aujourd'hui, qui sont adultes, bien sûr, maintenant. Oui, oui, mais donc mon mari travaillait dans un organisme à la SNCF, où j'avoue qu'il y a peut-être, certainement, je pense, toujours de très bonnes colonies, et surtout, c'était des grands domaines. Donc, ils ont tout petits, ils sont partis à partir de l'âge de 5-7 ans, jusque 15 ans, même 17 ans, même le dernier, c'est vrai, le plus gros. Et lorsque je les préparais à partir en colonie, je leur disais, bon, allez, je vous ai inscrit 15 jours. Oh non, on veut pas y aller, je veux plus y aller. Mais quand ils revenaient, ils étaient enchantés. Et là, c'était, bon, maman, t'exagères, t'aurais pu nous mettre 3 semaines, c'était super. Donc, ils avaient soit la mer, le choix à la mer, soit la montagne. Ils préféraient la montagne car il y avait énormément d'activités et ils ont fait des activités qu'ils n'auraient pas pu faire avec nous. Par exemple, la spéléologie, le parachute, les balades vraiment en haute montagne et puis le camping en pleine montagne également. Ils apprenaient à se débrouiller, à gérer.
Donc c'était tout petit, moi, spécial, c'est pas... dis donc, pour vos enfants.
Ah oui, c'est vrai qu'ils appréciaient. Bon, c'est vrai que ici ils faisaient déjà la maison du sport, je veux dire, mais ils appréciaient. Puis quitter un petit peu le cocon familial où maman était toujours un petit peu allée poupouner, on va dire comme ça.
Bah oui, c'est ça qui est bon, qui était bon aussi et qui le reste, Jean-Marie Bataille,
voilà.
pour vous répondre, chère Claudette.
Oui, ça c'est vous évoquez la dimension de l'autonomie de l'enfant, c'est vraiment quelque chose de très singulier, les colonies de vacances pour ça. C'est le départ, effectivement, hors du contexte familial, pour une période où on va être avec d'autres enfants et des adultes qui s'occupent de nous. Ça, c'est vraiment une chose importante à mettre en avant.
Des activités qui rendent fiers, parce que là, Claudette évoque parachute, spéléologie, c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne ferait pas par ailleurs. Il faut qu'en allant en colonie de vacances, on découvre peut-être une singularité, quelque chose qui fasse un petit peu vibrer, Anne Carayon.
Alors finalement, moi je dirais que c'est l'ensemble de la colonie de vacances qui... on ne sait pas ce que l'on fait à la maison, parce qu'on est ensemble avec d'autres enfants. Donc de toute façon, quelle que soit la colo, il se passe autre chose que dans le quotidien.
Oui.
Et après, la découverte d'activités particulières, d'un milieu particulier, ça c'est le petit plus et qui va justement marquer. Et c'est l'ouverture du champ des possibles dont je vous parlais. C'est-à-dire c'est parce qu'on aura découvert ça que plus tard on aura envie d'y retourner ou d'en faire quelque chose.
Merci beaucoup Claudette pour votre témoignage et pour cette première.
Voilà.
Vous êtes la bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci Claudette.
Merci et bonne journée.
Merci. Marie nous écrit de Corne. J'ai fait partie des éclaireuses de France. Mes enfants ont fait des colonies. Mon fils a eu un accident de moto et pendant toute son hospitalisation, il s'est remémoré tous les souvenirs de sa colonie. Cela m'a beaucoup aidé, mon fils, à surmonter cette épreuve. C'est vrai que tout ce qui se construit aussi dans notre enfance, dans notre jeune adolescence, est essentiel pour notre vie d'adulte, Jean-Marie Bataille. Ça, vous avez beaucoup étudié ça aussi.
Oui, j'ai travaillé sur la prise de responsabilité des jeunes dans ce cadre des colonies de vacances. Et effectivement, c'est un milieu, d'abord, il y a effectivement ce qu'on évoquait juste avant, la question du dépaysement. Donc on sort d'un lieu qu'on connaît pour aller vers un autre.
Et même si on va quelques dizaines de kilomètres de
chez
nous.
Exactement, on n'a pas besoin de partir très loin. Et aujourd'hui d'ailleurs on va moins loin parce qu'on veut faire diminuer aussi le coût des séjours.
Oui.
Et ça, voilà. Mais la deuxième chose, c'est donc la prise de responsabilité, c'est une occasion unique de pouvoir essayer de faire des choses en autonomie, avec un entourage bienveillant d'adultes. Et ça, il n'y a pas d'occasion dans l'existence de vivre ce type d'expérience.
Blandine va réagir dans un instant sur Europe 1, sur ses colonies, ses enfants y vont. Isabelle nous le dit, je suis une grande adepte de la colonie. Elle a 54 ans, elle a commencé à 4 ans. Ses 4 enfants font de la colonie. Ses 2 aînés sont partis quand ils avaient 5 et 6 ans, déjà pendant une semaine. Et puis, régulièrement, elles ont demandé à repartir plus longtemps. C'est un peu plus compliqué, dit-elle, pour sa 3e fille. Mais voilà, c'est arrivé une fois qu'elle soit malheureuse, finalement, tout va bien. Et il y a quand même une progression aussi. Un séjour en appelle un autre. On va y venir dans un instant et voir comment le gouvernement peut vous aider à démultiplier les candidats en colonie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Parmi les messages que vous nous laissez sur les colonies de vacances, il y a cette question de la confiance. Françoise nous dit je n'enverrai pas mes enfants en colonie car je n'ai plus confiance. Delphine, je ne fais plus confiance aux éducateurs, il y a trop de violence, de viols, etc.
Alors, ça fait peut-être aussi partie de la désaffection de ces colonies de vacances. Les colonies ont bien changé depuis les années 60. 4 millions d'enfants partaient à l'époque, 900 000 aujourd'hui, et le gouvernement voudrait atteindre le chiffre d'un million pour traduire la nécessité aujourd'hui en termes d'intégration, de mixité, de mobilité, d'émancipation des colonies de vacances. Mais c'est un sujet important que celui que vient de nous dire Julie, qu'il ne faut pas évacuer. Anne Carayon, directrice générale de la Confédération La Jeunesse en plein air, et Jean-Marie Bataille, spécialiste des colonies de vacances. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que cela explique aujourd'hui en partie la désaffection?
En fait, on n'a pas vraiment d'études précises sur la question de justement des difficultés que pourraient rencontrer des enfants à l'intérieur d'un séjour. Mmh. On sait qu'il y a eu des questions de pédophilie à un moment dans l'histoire des colonies de vacances. C'est un sujet qu'il faut pas garder de côté. Il faut vraiment s'en emparer, travailler sur les conditions qui permettent de fabriquer la confiance et les conditions qui permettent à des personnes qui vivraient des situations difficiles de trouver des interlocuteurs. Ouais. Je crois que c'est quelque chose d'important, c'est qu'on puisse avoir l'occasion de trouver des réponses lorsqu'on a des difficultés à l'intérieur d'un séjour.
Alors moi, je suis parent, et comment je fais confiance à un établissement pour envoyer mon bout de chou de 7 ans pendant une semaine ?
Alors, vous êtes parent, il faut savoir que tous les séjours sont déclarés en amont et que tous les encadrants sont vérifiés.
Donc, ça veut dire
on
quoi,
vérifie
séjour
leur
déclaré
moralité. Oui. On déclare, il y a un fichier qui s'appelle FIGES, qu'on déclare donc auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse aujourd'hui. Donc, c'est contrôlé aussi par l'État, il peut y avoir des inspections. Oui. Mais tous les encadrants sont vérifiés avant le séjour, on vérifie la moralité de ces encadrants. Nous sommes dans un secteur qui est un des mieux protégé en termes d'enfance. Tout est fait pour que le séjour se passe en sécurité. Ce qu'évoquait Jean-Marie Bataille est ancien. L'État a réagi très vite et aujourd'hui, le cadre sécurisant est vraiment posé sur cette question de sécurité. Dans notre sondage, 16% des parents évoquent comme levier la confiance, être rassurés par rapport à l'encadrement. Ça n'arrive vraiment pas en début pour lever cette confiance. Donc il est important de rassurer ces 16% de parents qui sont encore inquiets et de leur dire que donc on a un encadrement aujourd'hui qui est formé et qui est contrôlé. Et il y a aussi des inspections durant les séjours.
Avec que des personnes diplômées qui encadrent ces enfants ?
Oui, les encadrants ont le BAFA ou le directeur, le BFD, sont en formation. Et puis, il y a aussi le fait d'être un collectif qui est veille aussi et qui fait qu'il ne peut pas ou s'il y a... qu'il y a un collectif qui protège l'enfant.
D'accord. Voilà ce qui vous a peut-être totalement rassuré aussi dans vos différents choix. Bonjour Blandine.
Oui, bonjour.
Bonjour et merci de venir témoigner, vous qui êtes maman justement. Et
oui.
Votre fils a quel âge aujourd'hui ?
11 ans, donc j'ai entendu, parce que là, j'ai l'impression que ça résonne, non ?
Non, ça va, tout va bien, Blandine.
Ah d'accord. Oui, donc en fait, j'ai un enfant de 11 ans et j'ai entendu le sujet en voiture.
Oui.
Donc en fait, moi je suis jamais partie en colo, parce que voilà, mes parents n'avaient pas les moyens, mais mon mari, oui. Mmh. Et donc, en fait, il s'est trouvé qu'une année, on n'avait pas de mode de garde pour une semaine. Donc, du coup, on a regardé sur le CE de mon mari.
Oui.
Et on lui a demandé s'il voulait aller en colonie. Donc, il nous a dit oui.
Oui, il avait 7 ans.
Du coup, on lui a demandé.
Oui,
la première fois, il avait 7 ans. Donc, on lui a demandé ce qu'il voulait faire. Il nous a dit équitation, parce que c'est un sport qu'il aime.
D'accord.
Donc, la première fois, j'ai dit, bon, on va le mettre 5 jours, pas très loin, on va voir comment que ça se passe. Mais du coup, c'est que au bout de 5 jours, il voulait plus rentrer.
Ouais.
Donc du coup, l'année d'après, maintenant, on le met 10 jours. Et ce qui est bien, c'est que il choisit un thème qui est complètement différent de ce qu'il fait pendant l'année.
Oui.
Et j'avoue que même au niveau scolaire, comme il est dans la même école depuis la maternelle, franchement, même au quotidien, on l'a trouvé changé.
Ah.
Au niveau autonomie.
Oui.
Au niveau confiance en lui,
oui.
Parce que quand il part 10 jours, la première fois qu'il est parti 10 jours, on lui a donné un téléphone portable, parce qu'ils ont le droit pendant une heure tous les jours,
oui.
ils peuvent appeler les parents, les grands-parents, donc on lui avait rentré les 4 numéros de téléphone, et ils pouvaient nous joindre. Et franchement, il est même revenu avec du crédit. Donc, je trouve que c'est génial, parce que ça lui a... Et il découvre autre chose.
Et quand vous le retrouvez après 10 jours, vous le voyez changer, surtout que ça change beaucoup cet âge-là.
Mais complètement. Franchement, même au niveau, enfin, de l'encadrement. Bon, moi, j'ai un BAFA, donc j'ai déjà encadré des enfants.
Vous connaissez aussi.
Voilà, peut-être que c'est ça aussi qui m'a... Là, vous parliez de pédophilie. C'est vrai que, bon, moi, franchement, j'y pense pas du tout. Je me dis, il faut leur faire confiance. Voilà, à un moment, oui, ça existe, mais il faut pas non plus...
Enfin, vous voilà. avez été rassurée, c'est-à-dire pense... c'était par le CE de votre mari, vous avez aussi voilà, son établissement labellisé,
en fait,
déclaré.
C'est un...
Dites-moi, oui.
C'est quand même privé, parce que c'est par un CE de l'armée.
D'accord.
Je pense que la dame doit connaître le CE.
Comment ça s'appelle?
Je pense que je ne peux pas le dire à
non,
l'antenne.
D'accord, non, mais vous faites ce que vous voulez.
Non, oui.
C'est
voilà.
vous,
non,
je vois.
Et donc, voilà, mais moi, ça se passe très, très bien. Là, il y retourne cette année, il a choisi Quad.
Oui.
Donc on l'emmène et franchement on va le rechercher parce que voilà c'est un choix parce que c'est pas très loin, c'est à 3 heures de chez nous, mais l'année prochaine il voudrait faire surf, donc c'est vers Bordeaux,
donc là il a déjà train. 2 ans d'avance quoi dans ses plannings, c'est formidable ça.
oui il choisit oui voilà, donc et plus tard il pourra même faire des séjours linguistiques, mais moi je trouve qu'ils sont très bien encadrés et qui font des choses, mais franchement, complètement différentes de ce qu'ils font pendant l'année. Et surtout, on n'est pas derrière.
Alors, Blandine, votre témoignage, il est excellent. Vraiment, il va nous amener à réagir avec nos invités Anne Carignon, Jean-Marie Bataille, sur comment un séjour en amène à un autre, comment cela favorise l'autonomie, parce que c'est manifeste chez votre fils. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler pour nous raconter cela, parce que voilà, ça va peut-être donner envie à des parents de faire absolument comme vous, Blandine. Merci beaucoup, à tout de suite sur Europe 1. Encore pour parler des colonies de vacances. Quelle image avez-vous aujourd'hui de ces séjours en plein air, modernes ou passéistes? On fait le tour de la question.
Elle a eu des mots formidables. Blandine de Massingy en Haute-Savoie, nous parlant de son petit garçon de 7 ans qui, depuis 4 ans maintenant, part tous les ans en colonie de vacances. Ça a été progressif, 5 jours, puis 10 jours maintenant chaque été, les passés de l'équitation, le quad cette année, le surf, c'est génial Anne Carillon. Là, c'est pour vous l'ascension parfaite, quoi.
Très très beau témoignage de Blandine, merci. Beau modèle, et oui, on peut commencer par des petits départs, des courts séjours de proximité, voire commencer par le centre de loisirs qui peut aussi proposer des mini-camps et qui va donner envie et confiance et à l'enfant et aux parents de se dire mais finalement je peux partir sans mes parents.
Le centre de loisirs étant plus abordable?
Oui, le centre de loisirs, il est souvent fortement aussi accompagné par la municipalité et les CAF. Et donc, les prix sont beaucoup plus abordables. Et juste à côté, de proximité, l'enfant rentre tous les soirs. Donc, ce n'est pas la colonie de vacances, mais c'est complémentaire dans notre démarche.
Elle a dit deux choses très importantes, Jean-Marie Bataille-Blandine. Elle a dit qu'elle le voyait changer à la fin de chaque séjour, son petit garçon. Beaucoup plus autonome, vraie expérience de vie. Et surtout, elle a vu ses résultats scolaires, son comportement à l'école changer.
C'est lié ça, alors? C'est lié aux vacances qu'on a passées? Ou à cette vie en collectivité?
C'est ça, c'est la vie en collectivité, c'est la prise de responsabilité, c'est l'autonomie que gagne l'enfant. En fait, il le gagne pour la vie. Donc il peut le réexploiter et le mettre en place dans d'autres univers, et l'univers scolaire en particulier, ces qualités-là sont importantes. Et je voulais juste insister aussi sur un deuxième aspect de ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il connaissait bien l'organisme qui a permis le départ.
Oui.
Et ça, par rapport à la question de la confiance, tous les organismes qui ont une relation avec les parents et les enfants tout au long de l'année, par exemple le scoutisme, mais pas que, c'est une qualité importante pour construire la confiance.
Ouais, elle a ajouté sa volonté que des aides soient mises en place pour aider quasiment tous les enfants à partir en colonie. Le fait que le gouvernement agisse sur ce levier-là et s'intéresse à ce sujet, Anne Carillon, pour la jeunesse en plein air que vous représentez, c'est une bonne nouvelle?
C'est une très bonne nouvelle, il y a une vraie dynamique aujourd'hui. Alors, les gouvernements précédents avaient initié une campagne de communication qui se poursuit aujourd'hui, mais avec une volonté d'aller au-delà de la campagne de communication. On attend des mesures au début de l'automne sur les colonies de vacances.
De l'argent en l'occurrence?
Alors peut-être, on l'espère, pas forcément. Et normalement, justement, on doit travailler avec le ministère sur ces questions. Il y a une véritable écoute de leur part.
Caroline nous écrit pour finir du Kremlin Bicêtre. Elle a 38 ans. Personne ne parle du scoutisme qui permet de partir en camp avec aussi un accès aux handicapés et des tarifs plus abordables. Pour terminer, Jean-Marie Bataille.
Exactement, le scoutisme a une vraie logique de mixité des publics. Et ils ont effectivement une autre logique financière, puisqu'ils travaillent sur... ils n'ont pas de bâtiment, par exemple, ce qui est un coût toujours important dans le prix d'un séjour.
On dort forcément en plein air,
sous les tentes.
Sous tentes.
Mmh. Ah, sous les tentes. Oui,
ouais, sous les tentes. Et ça rajoute en plus à l'expérience.
Oui.
Parce que c'est quand même aussi quelque chose de très dépaysant, de dormir sous la tente. Et puis, ils ne vont pas forcément très loin. Donc ça, c'est encore un deuxième élément qui joue sur le coup. Et au final, il y a encore un troisième élément, c'est sur l'encadrement qui est souvent bénévole. Donc ça joue encore un troisième... Donc on peut créer des conditions du départ en vacances, en séjour, pour une plus grande masse de personnes en jouant sur ces trois éléments.
Très bien. Et tout cela, évidemment, se rejoint. Les camps scouts appelant les centres de loisirs, appelant les colonies de vacances et un petit séjour en appelant peut-être un plus grand. Merci beaucoup pour... Vos témoignages, chers amis, vous étiez très nombreux à l'antenne aujourd'hui. J'ai pas pu tous vous prendre en ligne, mais les vôtres étaient éclairants. Anne Carayon, directrice générale de la Confédération La Jeunesse en plein air, était avec nous en studio. Merci. Et je rappelle votre ouvrage, Jean-Marie Bataille, si le sujet vous intéresse. À quoi servent les colonies de vacances? Paroles de pros. Voilà ce livre pour des séjours aussi citoyens, écologiques, solidaires. On n'a pas tout à fait parlé aussi de cette nouvelle donne, voyage plus écolo, mais c'est encore un sujet annexe. Merci à tous et à tout de suite pour parler en ce Red Day, ce 16 mai, des maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on prend assez soin de notre cœur? Eh bien, on vous sensibilise sur le sujet jusqu'à 11h.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.